Bonjour, bonjour à vous qui écoutez cet épisode. Donc c'est Ilan. Pour ceux qui écoutent souvent ce podcast, c'est pas le début auquel on vous a habitué, mais je voulais faire quelques annonces et je me suis dit que les placer en début d'épisode serait plus efficace que les placer à la fin. Donc quelques annonces parce que vous commencez à être beaucoup à écouter ce podcast. Enfin, beaucoup. C'est relatif, hein, mais pour nous c'est déjà beaucoup. C'est-à-dire une cinquantaine à une centaine de personnes à écouter chaque nouvel épisode à sa sortie. Et premièrement, c'est vrai qu'on l'avait jamais fait, mais je tenais quand même à remercier ceux qui nous ont suivis. Donc là, je vais vous citer, mais parce que ça me tient à cœur et c'est vrai qu'on l'a jamais fait. Donc je remercie François, Guillaume, Black Ali, Awa, Alice, Sofiane, Raphaël, Marie et tous les autres que j'ai pas cités. Mais je voulais vous remercier pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Tous les commentaires qui nous ont fait sourire, qui nous ont touchés, et j'espère que vous continuerez à nous suivre. Et du coup, pour tous les autres, c'est à ceux que je voulais parler aussi, parce que c'est dommage, justement, on arrive à en moyenne 75 personnes qui écoutent chaque épisode à leur sortie, de pas nous avoir contactés, parce que, bon, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais on adore parler du trône de fer avec Guillaume, et bien que ce podcast, on l'ait créé pour nous, c'est aussi pour interagir avec les autres, découvrir des personnes qui partageraient cette passion de cette saga et voilà, juste interagir parce que c'est ça qui nous fait plaisir. On est assez gentils et ben ouais, ça nous ferait un peu kiffer de voir que c'est cette je sais pas, cette masse entre guillemets qui nous écoute mais qui ont jamais interagi avec nous sur les réseaux sociaux ou par mail, etc. Puissent nous faire un coucou sur un de vos auditeurs et juste que vous découvrir, parce que voilà, ça nous ferait plaisir. Deuxièmement, alors ceux à qui j'en ai déjà parlé le savent, mais pour ceux qui ne le savent pas, en fait avec Guillaume, on a enregistré les épisodes de ce podcast vachement à l'avance. C'est-à-dire qu'au départ, quand on l'a créé, comme je vous l'ai dit, c'était pour nous, et donc je vais faire découvrir la saga rapidement à Guillaume pour qu'il soit à jour pour le sixième tome. Donc, vous savez que la saga compte actuellement 5 tomes, le sixième... est encore à venir, mais du coup, bon, ça fait un an et demi que ce podcast a commencé, toujours pas le signe du sixième tome The Winds of Winter, et ce qui est dommage avec le fait d'avoir enregistré tous ces épisodes à l'avance, c'est que, en fait, Guillaume est beaucoup trop en avance par rapport aux commentaires que vous pouvez lui donner. C'est-à-dire que moi, à la limite, je m'en fous, parce que bon, j'ai déjà lu la saga, donc on peut parler un peu de tout, mais pour Guillaume, quand on sort les épisodes récents, et que, je sais pas, vous lui parlez justement de ce qui s'est passé, en fait, dans sa tête, Guillaume, il est déjà, 30 chapitres après, quoi. Pour vous donner les chiffres, on est le 15 octobre 2021, avec Guillaume, là, on a enregistré on est au tout début, en fait, du deuxième tome, Clash of Kings, et pourtant, pour la sortie des épisodes, on n'en est qu'à la moitié du tome 1. Donc, on a décidé, conjointement, et de toute façon, c'est aussi pour des contraintes logistiques, puisqu'on va plus vivre à côté, de stopper nos enregistrements jusqu'à ce que Clash of Kings commence. Enfin, en tout cas, que les épisodes du second tome commencent à sortir au rythme de... on va peut-être sortir un épisode tous les 3 jours, quelque chose comme ça. En tout cas, on va sortir les épisodes de la fin du tome 1 très rapidement, on retrouve en fait un enregistrement qui soit assez proche en fait de la sortie des épisodes. Comme ça sera mieux pour Guillaume surtout, pour pouvoir interagir avec vous. Voilà, donc les annonces sont finies. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez nous les poser, on est très accessible. N'hésitez pas non plus, comme je vous l'ai dit, à venir interagir avec nous. Profitez de ce chapitre de Daenerys après cette courte introduction. Et dans un dernier temps, merci encore de nous suivre. Bienvenue sur Les Apprentis Lecteurs, le Trône de Fer, le podcast lecture et lecture du Trône de Fer ou Song of Ice and Fire, sans spoiler. Aujourd'hui, on se retrouve pour le chapitre 46, soit le cinquième chapitre de Daenerys, toujours en compagnie de mon Akama, Guillaume, ici présent.
Ouais, toujours là.
Alors c'est parti, Guillaume, on peut y aller.
Ouais, donc dans ce chapitre, on retrouve Daenerys en pleine cérémonie devant le Doge Kallin, une cérémonie à visée prophétique consistant à faire manger un cœur de cheval. Bon, je sais pas ce qu'il y a de prophétique là-dedans, mais bon. Devant la performance de Daenerys, les veuves du Doge Khaleen voient en Rhaego, l'enfant à venir de Daenerys, l'étalon qui chevauchera le monde, c'est-à-dire le grand Khal qui réunira tous les Dothraki au sein d'un même Khalasar et qui conquérira le monde. À l'issue de cette cérémonie, est organisée une fête, mais Viserys viendra la gâcher en réclamant son dû à Khal Drogo, mais surtout en menaçant de tuer Daenerys avec une rapière introduite illégalement dans Vice Dothrak. Khal Drogo donnera à Viserys ce qu'il lui avait promis, une couronne d'or. Oui, mais une couronne d'or en fusion dans la gueule.
Je sais pas à quel film ça fait penser quand il finit comme ça. Tu sais mon point.
C'est Chuck Norris qui fait « Fais attention où tu mets tes pieds ». Oui, je fais très attention. Et c'est souvent dans la gueule.
Ouais, c'est exactement ça. Je savais que ça me faisait penser à quelque chose. Alors, c'est un chapitre qui est très descriptif. Donc, même si, bien sûr, on va en parler dans cet épisode, le mieux, c'est quand même de bien le lire ou de le relire. Parce que y a pas tellement de choses à comprendre ou analyser. Et Guillaume et moi, nous n'allons pas faire une redite de chapitre, sachant que...
On va pas paraphraser tout le chapitre.
Ouais. Sauf que ouais, 70% du texte, c'est de la description de la cérémonie dont on va parler. Mais au final, ouais, c'est vraiment un chapitre super descriptif pour le coup. Mm-hmm. Donc le chapitre débute à Vice Dothrak, où Daenerys est entourée de son Khal, Drogo, de ses 100 coureurs et du Doge Khaleen. Donc le Doge Khaleen... On l'a découvert, on en a entendu parler dans les chapitres précédents, mais c'est vraiment là qu'on le découvre. C'est donc un conseil formé d'anciennes Khalees. Daenerys s'apprête à manger le cœur cru d'un étalon que les 100 coureurs de Drogo viennent juste de tuer. Ce rituel était censé donner de la force à l'enfant à naître. En revanche...
Surtout lui donner une infection... une infection parasitaire. Ouais. Surtout donner la chiasse, à mon avis, mais bon.
En revanche, si Daenerys ne mangeait pas le cœur ou le recrachait, c'était signe de mauvais présage pour le bébé. Et j'adore la façon dont ils le disent. Enfin, pas la façon, mais plutôt les termes avec lesquels ils emploient.
Ah oui, oui.
Il pourrait être débile, mort-né, voire de sexe féminin. On voit le voilà quoi, on voit l'échelle de problème par rapport au sexe du futur enfant. Ah bon, bien qu'on sait que bon, et surtout pour les Dothraki là, c'est là, important quand même la notion de continuité, d'héritage, et bon, c'est des guerriers, etc. Donc oui, forcément les talons qui chevauchera le monde ou qui montrera le monde, je sais plus exactement. Ce doit être un garçon, mais je veux dire le mettre au même plan que voilà, soit être trisomique, soit être amputé de deux bras, c'est quand même problématique. Moi, j'aimerais bien voir quelle est justement la réaction de Khal Drogo si son enfant c'était une fille, justement, tu vois. Je sens que ça pourrait être très drôle. Comment tu réagis d'ailleurs? Enfin, je veux dire, il va pas la rogner. Mais tu sais, il sera là, genre, ah. C'est une fille. Ah.
Genre, j'imagine trop les sages-femmes dire « vous avez mis au monde une merveilleuse petite fille
!» C'est le visage impassible. Mmh. Bref, on vous laissera le soin de relire le passage où elle le mange, si vous êtes curieux, parce que ça paraît franchement dégueulasse. Dégueulasse. À moins que certains de nos auditeurs apprécient, et en tout cas là, no judgment, vous pouvez...
Ouais, ou mettez en commentaire quel goût ça a.
Non, mais si quelqu'un tient manger un cœur de cheval par ici, mais bon...
Cru.
Ouais, cru en plus. Mais bon, la façon dont elle le mange, je crois que c'est répété trois fois, elle le recrache, elle déglutit, elle avala, elle crache, tu vois.
Genre, je l'ai mangé, je l'ai vomi, je l'ai revomi.
On en parlera un peu plus tard, mais je trouve que cette scène, et même ce chapitre, il est vachement bien retranscrit en vérité dans la série. Donc, au final, Daenerys parvient à manger le cœur en entier. En même temps, bon, elle s'est entraînée avec, je sais plus ce qu'elle a mangé, je crois des bribes de cheval séché ou des trucs comme ça.
Ouais, enfin, on s'habitue au goût, à mon avis. Ouais, c'est vrai que si t'arrives, tu découvres le truc, t'es pas bien.
Hein. Et elle avait aussi jeûné. Donc forcément, bon, ça a aidé. Mais elle a quand même réussi l'épreuve. Et s'ensuit alors un chant cérémonial des reines du Doge Khaleen, célébrant l'enfant à naître. Puis, la doyenne de ces reines s'approcha du feu pour y lire l'avenir dans la fumée. Et quelle destinée aura l'enfant de Daenerys, d'après elle? ça serait lui, l'étalon qui montera le monde. Il aurait tout un Kalasar pour le suivre, il ravage ses ennemis, entre guillemets, donc un grand guerrier, etc., etc.
Bah, carrément, c'est une prophétie qui existe depuis des centaines d'années, je crois.
Mais du coup, ça me fait poser la question, est-ce que la doyenne, là, du Dosh Rally, ne fait la même prédiction pour tous les enfants des Cales? Oui.
Bah, en même temps, je suppose que c'est pas la première à réussir à bouffer le cœur, tu vois.
Bien sûr. Oui, mais pour l'instant. Non, ce que je veux dire, c'est que bon, imaginons qu'il y ait deux naissances à une semaine d'intervalle, si tu fais la même prédiction aux deux cales, voilà quoi, ça enlève un peu de. Enfin, ça enlève un peu de pouvoir à la prédiction, à la prophétie.
Non, mais je pense que c'est vraiment. Je sais pas. Je sais pas si, c'est, si elle a vu vraiment une vision dans le feu ou si.
C'est du bullshit.
C'est du bullshit.
Ouais, moi, je sais pas. Je crois que, en le disant comme ça, je dirais plutôt comme du bullshit parce que t'as l'impression que, bon, cette prédiction, elle est faite à tous les enfants de Cal, quoi. C'est un peu pour attiser leur ego et pour les contenter. À la fin de la cérémonie, Daenerys révèle alors le nom de son futur enfant. Il s'appellera Rego. Donc, forcément, Rego. En fait, elle le dit elle-même dans le chapitre, hein, Khal Drogo, c'est en hommage à son grand frère, Rhaegar Targaryen, le dernier dragon d'après Jorah Mormont.
Et que ce sera un nom qui fera peur à l'usurpateur.
Ouais.
ça c'est pour troller, c'est pas mal.
Ouais. Voici venu. Attends, c'est qui par rapport? Ah bah du coup, ça serait le neveu. Voici venu le neveu de Rhaegar Targaryen, Rego, le Khal Rego. C'est pas mal, t'as raison. Donc je le disais, dans ce chapitre, on a enfin la définition exacte de ce qu'est le Dosh Rallin et de comment il se forme. Donc il est composé d'anciennes Khaleesis dont le Khal est mort. Donc d'où la définition de reine douairière. Et par tradition, ces veuves viennent ensuite rejoindre le Dosh Rallin qui règne sur les Dothraki. Et du coup, bon, ça a l'air de terrifier Daenerys d'en faire partie un jour.
Je comprends.
Bah, c'est-à-dire qu'elles sont là, on n'a pas l'impression... Bah, après, bon... je pense qu'elles doivent obligatoirement rester à Vaes Dothrak, et ouais, c'est un conseil, mais je vois pas en quoi ça pourrait terrifier Daenerys à ce point-là.
Bah, tu peux plus Ken, non?
On sait pas la vie de... Ça se trouve et tout, elles sont à la disposition des différents cales... Non, mais je veux dire, on connaît pas leur vie, tu vois. Ouais. Donc je vois pas pourquoi ça la terrifierait à ce moment-là.
Bah, ça veut dire que bah, si elle doit rester à Vaes Dothrak, elle pourra jamais retourner sur Westeros.
Ouais, mais est-ce qu'on est sûr pour l'instant qu'ils doivent rester à Vaes Dothrak pour l'instant? On sait juste que c'est un conseil qui règne sur Vaes Dothrak. Après, est-ce qu'elle est obligée de rester là? On sait qu'elle est obligée d'en faire partie. Mais après, ses prérogatives? Ça, on n'en sait rien, tu vois.
Ouais, bon, ça, on sent que ça doit pas être un avenir super joyeux, quoi.
Ouais, super, ouais. Bon, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que oui. Donc, si Khal Drogo meurt un jour, elle devra rejoindre ce conseil obligatoirement. En tout cas, ça a l'air d'être ancré, voilà, ça a l'air d'être en fait. On en apprend aussi un peu plus sur les croyances des Dothraki. Donc on savait déjà qu'ils pensaient que l'herbe allait recouvrir le monde et que ainsi ce sera toute vie. De même, on suppose qu'ils doivent prier une sorte de seigneur cheval, quelque chose comme ça, là où seuls les hommes ont le droit de prier à la mer des montagnes. Donc c'est quand ils sont arrivés, Khal Drogo est parti seul, ouais, là-bas. Parce que les femmes sont interdites d'accès. Et maintenant, on apprend qu'il y a une sorte de lac à Vaes Dothrak qu'il nomme le nombril du monde, et ça serait là où aurait émergé le premier homme. Ce premier homme serait apparu, montant sur un cheval. En gros, c'est ça.
Ok.
On ne sait pas. Je sais pas seulement s'il y a une profondeur à cette croyance, mais
c'est de la mythologie d'Othraki, qui je sais pas.
Et du coup, c'était dans cela que Daenerys
pénétrait
pour la suite de la cérémonie. Donc à la sortie du lac, Drogo ne put réprimer le désir qu'il avait pour sa Khaleesi.
C'était jupon de cuir qui trahissait son en fait, il est bandé à travers ses vêtements.
Ouais, il volait comme un cheval, comme un vrai étalon.
Comme un vrai étalon.
Et donc, Drogo l'a pris aux yeux de tous, en murmurant aux oreilles de Daenerys, l'étalon qui montra le monde. Vers la fin du chapitre, on apprend par Jorah Mormont que donc le terme l'étalon qui montra le monde vient en fait d'une prophétie, que ça serait cet homme qui réunira tous les Kalasar en un seul et qui ensuite conquérera le monde. En se rendant à la grande salle du Khal, Daenerys était déçu de ne pas y trouver son frère. En revanche, Jorah Mormont vint se joindre à ses côtés et il l'informa que son frère Viserys était au marché de l'Ouest, pour là-bas pour chercher du vin,
Parce qu'en effet, bon, les Dothraki boivent du kéfir. C'est de l'alcool qui vient de fruits. Et
bon. Non, ça, je crois pas. Hein. Je crois que c'est de l'alcool fermenté, de la jument.
Ah ouais, moi j'ai lu sur. Ça s'appelle ça aussi. Hein. J'ai lu sur Wiki et tout que ça venait de fruits, mais ça peut être aussi de la jument.
Je crois que ça existe vraiment. Boisson issue de la fermentation du lait ou de jus de fruits sucrés, préparé à l'aide de grains de kéfir, un levain constitué essentiellement de bactéries lactiques. Ouais, mais venant des Dothraki, c'est du lait. Hein. C'est du lait de jument. Enfin, ils ont plein de chevaux.
Oui.
Je pense que c'est du lait de jument.
Ok. Bref, en tout cas, cette boisson Viserys ne supportait pas le goût. Et Viserys cherchait aussi dans ce marché de l'Ouest des mercenaires pour sa future armée. Daenerys se demande si c'est bien prudent, et sermonne même jura Mormont de ne pas l'avoir accompagné et protégé des menaces de l'usurpateur Robert Baratheon. Et c'est drôle parce que je crois que depuis le début du chapitre de Daenerys, on n'a jamais appelé Robert par son prénom. On l'a toujours appelé l'usurpateur, mais jamais il a été appelé Robert Baratheon, je crois, dans ce chapitre. Jorah répond qu'à Vaes Dothrak, les armes en acier ne sont pas permises, même si, oui, cela n'enlève en rien le risque de la mort, vu qu'on peut tuer à main nue. Donc, bon. Et bon, ça se vérifiera à la fin du chapitre. Hein.
Le but, c'est ne pas verser le sang, c'est ça, mais tant que...
Mais je sais pas quoi, en vrai. Hein. Je crois que c'est vraiment juste les armes qui sont pas permises. Mais après, je crois que tu peux verser le sang. Je sais pas comment ça est.
C'est pas très bien expliqué. Ils disent qu'on n'a pas le droit de verser le sang.
Est-ce que c'est dans le sens métaphorique ou...
Ouais, c'est un peu dur. Mais j'ai l'impression qu'en mode... Khal Drogo, il tue Viserys. Mmh. Il saigne pas, donc du coup, c'est bon, tu vois.
Ouais. Franchement, c'est vrai qu'on n'a pas tellement d'explications ni pour la raison de cette règle, ni des spécificités, entre guillemets.
Et est-ce qu'on s'en fout? Peut-être.
Bon, voilà.
Peut-être.
Jorah Mormont informe aussi Daenerys que Viserys avait prévu de voler ses œufs de dragon, et donc Jorah Mormont en a dissuadé Viserys au risque de lui couper la main s'il les reprenait.
J'imagine trop, tout ça, je te baisse tes morts.
Mais je crois qu'en plus dans la série on voyait cette scène.
Non, je crois pas. Je crois pas. Non.
Ah, peut-être j'ai un mauvais souvenir.
Ça
alors.
Me dit rien du tout.
Si, je suis pratiquement sûr et tout qu'il y a une scène où. Justement, Viserys essaye de voler les œufs de dragon. On vérifiera.
On regardera après l'épisode. Ça changerait.
En tout cas, Daenerys est extrêmement choqué de cette nouvelle et se demande ce que Viserys pourrait bien leur vouloir aux œufs de dragon. Donc Jorah lui apprend que ces œufs de dragon, même pétrifiés, ont une valeur inestimable et que Viserys aurait les moyens de se payer son armée en les vendant. Et c'est là qu'on peut se demander pourquoi il y a eu Maubatis. Déjà, il a donné ses œufs dragons à Daenerys. Et en plus, s'il voulait donner une armée à Viserys, il aurait pu directement vendre ses œufs dragons et pas utiliser Daenerys pour faire échanger une armée à Khal Drogo, quoi.
Ouais. C'est là que... Bon, on sait qu'il y a eu Maubatis, il trempe dans des affaires un peu louches avec Varys.
Ouais, bah, on peut le dire quand même, il complote pour faire monter les Targaryens sur le trône.
Donc, c'est qu'il a vraiment une idée derrière la tête en donnant ses œufs dragons, quoi.
Ouais.
En tout cas, il les a pas donnés par hasard du tout.
À la limite, pourquoi pas, tu vois. S'il a une idée derrière la tête, ou pour l'instant, on sait pas trop quoi. Mais
on n'est pas débile non plus. On sent que ça va éclore à un moment ce truc. Hein.
Ouais.
On sent que ça va éclore.
Soit. Mais je veux dire c'est que s'il a donné ses dragons, en tout cas il a l'air d'avoir une fortune tellement énorme que je comprends pas pourquoi il a pas fourni. Il aurait pu fournir une armée directement à Viserys, tu vois.
Ouais.
Là moi il y a un truc qui est pas très clair, c'est que avec les moyens qu'avait Hilary Maubatis, cette transaction-là, elle est pas...
Ouais, je comprends.
Elle est pas nette. Dans le sens, déjà, rien que la transaction en elle-même, enfin, il aurait pu avoir un autre moyen pour avoir cette armée ou avoir de l'argent. Et en plus, il savait que cette transaction, il sait que Khal Drogo, c'est pas l'homme qui allait fournir directement sur le tas son armée de Dothraki, quoi.
Ouais, c'est genre un peu un investissement long, un peu incertain, voilà, aussi, tu vois.
Et même faussé. Donc je pense que... Enfin, il a l'air intelligent, donc il savait qu'en faisant cette transaction-là, en étant le gestionnaire de cet échange, que c'était très faussé. Donc, pourquoi il a...
Ouais. Ce qui est bizarre, c'est que, à la limite, s'il voulait donner des œufs, il avait qu'à les donner, tu vois. Enfin, il n'était pas obligé de faire en sorte que... Ouais, quelque de ramener les Dothraki dans le game, c'est...
Ouais, voilà. Exactement. Donc toi, t'en penses quoi, Guillaume?
Moi, je sais pas s'il a l'espoir que ça qu'il puisse éclore, ou j'en sais rien.
Ah, à la limite, ok. Donc pour les autres dragons, en tout cas, tu penses qu'en tout cas, Illyrium Pâtisse pensait les faire éclore avec Daenerys
le, ouais, en se disant que, voilà, proche des sons du dragon, machin... Il peut se passer un truc un peu mystique.
Ok. Et concernant l'échange en lui-même.
Et l'échange en lui-même.
L'échange dont vous parlez, c'est vrai, c'est le fait de donner Daenerys à Khal Drogo en échange d'une armée. Hein.
Ça, j'ai du mal à saisir.
Après cet échange, on comprend que Jorah Mormont ne respecte que très peu Viserys, alors que pour Daenerys, eh bien, Viserys est la seule famille qu'elle ait. Et sans lui. Elle n'aurait rien connu de cette couronne de son enfance et serait probablement morte à l'heure qu'il est. Donc on peut comprendre cet attachement de Daenerys à Viserys. Hein. Parce que même s'il a l'air méchant avec elle, même s'il la bat, il y a quand même ce lien familial qui les réunit et puis c'est quand même son sauveur, tu vois. Sans lui, elle aurait rien.
Bah ouais, enfin quand t'as connu que ça toute ton enfance et tout, c'est ton repère en fait. Mmh. Viserys, c'est son repère.
Ouais.
Même si elle commence à trouver d'autres repères.
Mmh. Et soudain, l'homme dont on parle depuis tout à l'heure, Viserys, apparaît. Sauf que, d'une part, il est complètement ivre, et d'autre part, il porte une rapière, et on le rappelle, c'est totalement interdit au sein de Vaes Dothraki. Viserys commence alors à invectiver sa sœur aux yeux de tous, et il était cerné du regard des Dothraki. Le Khal Drogo commence même à l'insulter, des rois va-nu-pieds, des rois carrioles, et lui indique que sa place est auprès des vieillards et des handicapés. Tu peux rappeler pourquoi Guillaume Khal Drogo l'insulte comme ça?
Pendant le voyage, on lui a privé de son cheval une fois après avoir agressé Daenerys. On lui a privé de son cheval. Bah déjà va-nu-pieds, bah, du coup il a dû marcher comme un esclave. Mmh. Et le pire, c'est qu'il a accepté une proposition, c'est monter dans une carriole pour le voyage, et en fait, c'est une humiliation parce que la carriole, on la réserve qu'aux vieillards et aux handicapés, quoi.
Ouais, c'est ça. Hystérique, Viserys commença à se battre avec Jorah Mormont, mais surtout dégaina sa rapière. Daenerys savait pertinemment qu'en effectuant cet acte, Viserys avait signé son arrêt de mort. Alors son frère s'avance vers elle, appuie à la pointe de son épée contre son ventre, tout en réclamant au Khal Drogo l'armée et la couronne qu'il lui avait promis. Et c'est à ce moment-là que Daenerys désigne Viserys sous le terme d'étranger qu'elle avait eu pour frère. D'ailleurs, en fait, à ce moment-là, elle se rend compte qu'il pleurait et riait en même temps.
Voilà, donc, je pense que c'est le moment où je pense qu'il savait qu'il avait un, signé son arrêt de mort, deux, qu'il n'aurait jamais l'armée, enfin, je pense que pendant tout le voyage, il a senti sa déchéance, en fait.
Mmh.
Et qu'il s'est rendu compte qu'il conquérira jamais les Westeros. En fait, il a pas réussi à faire le deuil de cette idée, quoi. Et il a disjoncté, en fait.
Oui.
Il était c'est pour ça, il était en même temps dans la colère, en même temps complètement déprimé à l'idée de pas réussir à accomplir son destin, et je pense que c'est pour ça qu'il a complètement disjoncté et qu'il pleurait, riait en même temps. Parce qu'il était, enfin, il était perdu, quoi. Mmh. Et il savait qu'il allait mourir. De toute façon, je pense que dans son subconscient, il savait qu'il avait signé son arrêt de mort, là, à ce moment-là.
Et, concernant le fait que Daenerys maintenant le considère comme un étranger, tu penses quoi?
Bah, je pense que c'est Daenerys, je pense que, en fait, la vision qu'elle avait de Viserys, c'était son grand frère Targaryen, l'héritier, et c'était une illusion qu'elle s'était faite, en fait. Et je pense que à ce moment-là, elle s'est rendue, en fait, l'illusion s'est envolée, et qu'elle a vu le visage du vrai Viserys qui est complètement pitoyable pitoyable. Et en fait, ça, c'est un Viserys totalement éloigné de la vision qu'elle avait, donc c'est devenu l'étranger.
Donc ça n'a pas de rapport pour toi avec le fait qu'il a attaqué son enfant?
Bah si, c'est un rapport, parce que enfin là, elle s'est rendu compte que Viserys avait franchi le point de non-retour, vraiment attaqué son propre enfant, son propre neveu, du coup.
Ouais.
C'est ça devient un étranger, c'est plus...
Ouais, c'est plus son frère.
C'est plus son frère, quoi.
Khal Drogo avait raté la scène. Il prononça quelques phrases d'un ton dur et sec que Daenerys dut traduire à son frère. Drogo lui promettait cette couronne et que tous les hommes frémiront à sa vue. Les trois sang-coureurs de Drogo saisirent alors Viserys et, bon, il était sans défense et n'avait plus que ses yeux pour pleurer. Drogo déboucla sa ceinture et la jeta à l'intérieur d'un chaudron en fusion. Il attendit posément que l'or fonde et calmement renversa le contenu du chaudron sur la tête de Viserys. Voici, pour le jeune prince Targaryen, la couronne d'or que Drogo lui avait promis. Et c'est ainsi que Viserys, de la maison Targaryen, héritier de cette couronne, mourut. Donc, c'est voilà. Une disparition d'un personnage qui était quand même important, qui était quand même dans la ligne de succession de Targaryen en premier lieu. Hein. Et c'est vrai que depuis le début du tome, il nous apparaissait, comme tu dis, hein, assez pitoyable. On savait qu'il allait pas arriver à grand chose. Et en fait, ça s'accumulait, ces erreurs.
Ouais.
Donc, au bout d'un moment, ouais, il arrive au point de non-retour et là.
Est-ce qu'il va nous manquer? Non.
Je ne dis pas que c'est un personnage un peu osef, mais bon, voilà, on en est quand même au 46e chapitre et il est mort, quoi. Donc Daenerys prend sa place dans la ligne de succession Targaryen.
C'est Rhaegon, normalement, qui prend, non?
Non, parce que là, c'est sa mère. Pourquoi c'est... Rhaegon, c'est le fils de Daenerys.
Oui, mais c'est un garçon.
Bon, on s'en fout, ça. Non, ça marche les garçons que quand ils sont au même stade.
D'accord.
Quand c'est le fils, ça, c'est le fils vient après. Et donc oui, c'est de ça que je voulais parler tout à l'heure, quand je disais que ce chapitre dans la série était super bien retranscrit. Sa mort, elle est géniale, je trouve, dans la série. Tu sens en fait toute la souffrance quand l'or commence à s'écouler sur son crâne.
Ouais.
Et je crois qu'il disait assez bien dans le chapitre, quand on sent frémir, on sent ses membres palpiter, etc. Mais... Je sais pas, dans la série, c'est vachement bien foutu, quand même.
Ouais, ça marque les esprits, quand même.
Hein. Mmh. Je trouve que c'est une mort vraiment horrible. Je sais pas.
C'est vraiment ironique.
Ouais, la couronne et tout, ouais, c'est pas mal. Non, c'est assez poétique. C'est assez poétique dans un sens. Et, Khal Drogo, après, bon, il a pas, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, il a pas enfreint les règles de Vaes Dothraki, quoi.
Il a pas versé de sang, techniquement.
Il a pas sorti de l'âme. Mais bon, ça veut que c'est à géométrie variable, leur règle, hein. Parce que je comprends. Je pense que plutôt c'est dans l'idée de pas, voilà, mais ça a l'air quand même à géométrie très variable, leur truc, donc.
C'est vrai, contourner n'est pas enfreindre.
Ouais, ouais. Mais ouais, donc Viserys Targaryen est mort aujourd'hui. Ça, c'est triste. Mais bon, voilà, quoi. Les morts, ça arrive. Comme dirait Littlefinger, ma douce, nous ne sommes pas dans un conte de fées. Tu vas vite l'apprendre. Quand Ser Jorah Mormont essaye de faire détourner le regard de Daenerys, celle-ci refuse et regarda avec détachement la mort de cet étranger qui était autrefois son frère. De toute façon, il n'était pas le dragon, car le feu ne tue pas un dragon. Ouais, Daenerys regarde de façon assez stoïque la mort de son frère. Encore, je pourrais comprendre que d'accord, elle a pas l'air d'étranger, mais bon, ça, elle devient assez dure, quoi, là, je trouve. Hein. C'est la première fois qu'on la trouve avec un... Je sais pas, je dirais pas qu'elle a un cœur de pierre, mais...
Mais après, la sidération, c'est un mécanisme de défense bien connu. Quand t'as un truc ultra choquant qui se passe devant tes yeux, le fait d'être sidéré, de pas... Mais là, plus que sidéré, elle a l'air vraiment d'avoir pris une vraie distance, comme si elle...
Mais là, on parle d'une meuf qui a... Il y a quoi? C'est son cinquième chapitre, à son deuxième chapitre, quand elle voyait des gens baiser devant elle, elle détournait les yeux, elle se cachait, tu vois.
Ouais.
Donc, il y a un certain palier qui a été franchi par rapport à ça. Et là, bon, c'est encore plus choquant parce que c'est une vraie mort, tu vois, mais en plus, c'est la mort de son frère. Et je comprends. Ce qu'il a fait, c'était détestable. L'illusion qu'elle avait de lui s'est brisée. Mais, regarder sa mort de cette façon-là. Et tu sens qu'en fait, elle est en accord avec sa mort, quoi.
Ouais.
Elle le souhaite même quelque part. Enfin, oui, je crois qu'elle le souhaite même quelque part. Quand l'illusion s'est rompue, finalement, elle s'est dit que à quoi ça sert qu'il reste en vie au final. Mmh. Et je trouve que c'est vraiment dur. Son état d'esprit, il est vraiment dur à ce moment-là. Et donc oui, sa dernière phrase, le feu ne tue pas un dragon. Donc du coup, On sait premièrement que... cette phrase, ça fait écho à ce qu'a dit Daenerys dans son premier chapitre. Hein. Je sais pas si vous en souvenez. Mais en gros, pour la préparer à rencontrer Khal Drogo, ses servantes lui avaient préparé un bain chaud. Et Daenerys était entrée là-dedans. C'était même un bain brûlant. Hein. Et elle y est entrée sans cri ni grimace parce qu'elle disait aimer la chaleur et que elle aimait le sentiment que ça lui procurait, entre guillemets. Et que en plus c'était son frère Viserys du coup qui disait que rien n'était jamais assez trop brûlant, rien n'était assez jamais trop brûlant pour un Targaryen. En gros. Donc ça fait un peu écho à ça en se disant que bon si le feu ne tue pas un dragon c'est pas cette source de chaleur même de leur infusion qui va tuer un Targaryen. Après bon je suis pas sûr que Daenerys si elle avait reçu de leur infusion sur son crâne.
Ouais je suis pas sûr qu'elle soit sortie indemne.
Voilà mais ça paraît pour l'instant très métaphorique comme truc. Mais on sait que Daenerys bon elle aime la chaleur qu'elle y résiste très facilement. Après, voilà, ça doit faire écho à ça. Mais bon, pour l'instant, ouais, ça paraît assez métaphorique comme truc. Enfin, voilà. Du coup, on a terminé avec ce chapitre. Bah, comme on vous l'a dit au début, c'est quand même un chapitre très descriptif. Donc, même si on a parlé un peu de tout ce qui l'entourait, au final, il y a quand même beaucoup de choses à lire dessus, que ce soit sur la tenue des guerriers, sur la géographie, la structure de Vaes Dothraki, du Dothraline, et même sur les traditions des d'autres acquis, mais on espère quand même que nous écouter pendant une trentaine de minutes parler de ce chapitre vous a plu, que vous continuerez à écouter les épisodes suivants. Voilà, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, et si vous êtes assez content de nous, nous commenter et nous noter sur Apple Podcast.
Ça fait toujours plaisir.
On se retrouve la prochaine fois pour un chapitre de Eddard,
ouais.
À la prochaine.